Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil de sécurité vient d'approuver le déploiement de la force du G5 Sahel. Pourquoi ce soutien politique, tout d'abord, était important pour vous?
C'est pour avoir toute la légitimité et la clarté au niveau du mandat de cette importante force commune qui vient en complément des efforts de la communauté internationale sur le terrain. C'est une première étape pour que l'action elle-même soit légalement menable, si je puis dire.
Reste la question épineuse du financement. Les Américains, pour l'instant, y sont totalement opposés. Comment convaincre en particulier les États-Unis?
C'est exactement de la même manière qu'on doit faire pour convaincre les autres, leur expliquer que davantage de sécurité au Sahel, c'est davantage de sécurité dans le monde, et davantage de sécurité dans le monde, c'est davantage de sécurité pour les États-Unis en particulier. Et leur dire que, en termes de responsabilité sur le plan international, la responsabilité d'un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies est plus importante que la responsabilité d'un pays qui n'a pas ce statut-là. Et donc, il y a un effort à faire sur ce plan-là. Il y a aussi des choses à voir par rapport au financement global des opérations de sécurisation de la sous-région, voir s'il n'y a pas moyen de trouver une approche qui arrive à convaincre les Américains ou qui arrive à traiter leurs réticences.
Vous avez été déçu qu'hier le Conseil de sécurité n'aille pas plus loin pour l'instant. C'est une victoire en demi-teinte pour vous.
C'est une victoire déjà. Merci d'accepter que c'est une victoire, parce que qui aurait pensé qu'une idée qui a été initiée en 2014 à Nouakchott, que cette idée puisse un jour arriver à ce niveau d'intérêt international? Qui l'aurait cru? Et donc, c'est une victoire déjà. C'est un débat. Chacun a le droit d'émettre l'opinion qui lui convient, mais en définitive, la raison finira par s'imposer, parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde.
Le Mali, votre voisin, a de nouveau été touché ce week-end en périphérie de Bamako, avec l'attaque d'un campement touristique. Quelle est la recette de la Mauritanie pour être épargnée depuis plusieurs années?
La question par rapport à la Mauritanie, c'est très simple à comprendre. Nous avons été confrontés prématurément au terrorisme. Et qu'à l'époque, Nouakchott n'était pas épargné, Nema non plus, il n'y avait aucun point du pays, Kankossa et ailleurs. Mais à l'époque, le président, son excellence Mohamed Abdelaziz, avait décidé que tous les moyens mauritaniens seront mis à contribution pour contrecarrer ces risques-là. Et nous sommes allés en profondeur du territoire malien, comme vous savez, à Ouagadou et à Hassissidi, où la Mauritanie a perdu certains de ses meilleurs officiers. Mais c'est aussi, si aujourd'hui la population mauritanienne et le territoire mauritanien est libre de terrorisme, c'est parce qu'on a payé le prix à un moment donné. Et donc aujourd'hui, les terroristes le savent, le moindre geste vis-à-vis de la Mauritanie peut leur coûter excessivement cher, et ils le savent. Nous avons la particularité d'être à la fois un pays maghrébin et un pays subsaharien, et cette capacité nous donne la possibilité d'être beaucoup mieux renseignés que certains pays de la région. Nous avons réorganisé nos forces armées pour s'adapter à l'ennemi.
Vous déjouez encore aujourd'hui des attentats ?
Non, Dieu merci, mais nous les déjouons indirectement. La Mauritanie a imposé des points de passage obligatoires au niveau des frontières. Donc aujourd'hui, si vous ne passez pas par ces points-là, vous êtes tout de suite repérés. Nous les déjouons parce qu'il y a des zones militaires interdites.
Vos frontières ne sont plus poreuses, c'est ce que vous dites?
Nos frontières ne sont plus poreuses, non. Le niveau, je vais dire, de problèmes aux frontières, c'est un niveau normal, y compris par rapport au Mali. Le flux autour de nos frontières est complètement maîtrisé, et ça c'est un élément capital.
Isselkou Ahmed Izidbi, vous venez de rompre vos relations avec le Qatar. Pourquoi tout d'abord?
Si la Mauritanie a coupé ses relations avec le Qatar, c'est en raison de faits liés à sa propre sécurité et au comportement de ce pays qui, de par le passé, a eu l'habitude de financer des mouvements qui menacent notre sécurité.
Lesquels?
Il y a des ONG très connues, je ne vais pas citer une ONG sur votre antenne spécialement, mais en tout cas, en Mauritanie, elles sont très bien connues. Certaines ont été interdites, comme vous le savez. Et donc, c'est uniquement en raison de ces faits avérés pour lesquels il n'y a aucun doute là-dessus.
Vous en avez l'assurance?
Absolument, on a la certitude, et je crois que les officiels qataris le savent aussi, parce que ce n'est pas très difficile à prouver.
Pourquoi avoir rompu aujourd'hui ces relations et pas avant alors? Vous aviez besoin qu'il y ait d'autres pays moteurs avant vous?
Non, nous n'avons besoin de personne pour agir ainsi, parce que c'est une décision souveraine. Par rapport à une décision comme celle-ci, il faut étudier le contexte, il faut étudier les répercussions sur nous, sur le monde, sur la sous-région arabe, africaine, etc. Donc les espaces vitaux pour notre sécurité. Et donc c'est en fonction de cette évaluation du contexte que la décision a été prise.
La Mauritanie n'a pas plus à perdre avec cette rupture. Vous parliez d'ONG, mais on sait aussi que le Qatar a investi dans des projets touristiques, dans des projets de logement, dans la région de Rosso notamment, qui ont dû être interrompus.
Toutes ces questions ont été évaluées. Si la décision a été prise, c'est parce qu'on s'était rendu compte que le coût, si je puis dire, à payer n'était pas important. Et donc ça, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie.
Monsieur le ministre, merci.
Merci.